Mélomanie. Mélomanie, le rendez-vous des mélomanes en partenariat avec Amadeus Piano. Une émission proposée et animée par Éric Dupri.
Bienvenue pour ce nouveau numéro de Mélomanie et merci de votre fidélité au magazine de l'actualité musicale classique toulousaine et régionale. C'est toujours le grand embouteillage sur le front des concerts en ce mois de décembre, alors qu'approche déjà la période dite des fêtes. Inutile de vous dire donc que l'actualité musicale va rester encore très chargée les semaines qui viennent et que nous allons avoir beaucoup à faire pour vous en rendre compte. Heureusement, les chroniqueurs de Mélomanie sont solides au poste. En premier lieu, Serge Chosy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour le site Culture 31 et le journal La Voix du Midi. Il est accompagné de l'ami Robert Pénavert, l'autre cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour les sites Culture 31 et Actu Toulouse, ainsi que pour les journaux Côté Toulouse et La Voix du Midi. Il y a bien sûr un invité d'honneur dans cette émission et j'en suis particulièrement heureux aujourd'hui puisqu'il s'agit d'Alfonso Cayani, le chef du chœur du Capitole qui s'apprête à donner son traditionnel concert de Noël ce samedi 8 et dimanche 9 décembre au Théâtre du Capitole. Nous allons parler du programme de ce concert avec Alfonso Cayani, mais nous allons aussi évoquer avec lui le travail magnifique qu'il fait depuis des années avec ses choristes. Ce sera en seconde partie d'émission parce qu'avant, nous allons revenir sur les concerts de la semaine écoulée à l'occasion d'un très copieux retour arrière.
Mélomanie. Retour arrière.
Nous allons commencer ce retour arrière par les deux après-midi de concert du Festival Musique au Palais. Il a eu lieu les 24 et 25 novembre, mais nous n'avions pas eu le temps de vous en parler lors du dernier numéro de Mélomanie. Nous allons donc le faire maintenant. C'était la quatrième édition de Musique au Palais, avec un samedi dédié à Beethoven, ce génie, et un dimanche à un voyage aux Amériques et en Espagne. Pour ma part, je trouve que cette édition a été superbe grâce à la qualité des musiciens et à la variété de la programmation. Je dirais même, mais c'est personnel, que ça a été la meilleure édition depuis la création du festival. Serge Chosy, vous qui étiez le monsieur loyal de ces journées, je suis curieux d'avoir votre avis. On a vraiment entendu de très belles choses.
Ah, tout à fait, avec des révélations de jeunes musiciens, en particulier jeunes pianistes. Vraiment, on a entendu des choses auxquelles on ne s'attendait pas. Effectivement, ça a été un grand moment. Alors, c'est très difficile d'en parler, puisqu'il y a 3 concerts par jour, 6 concerts dans un week-end. C'est vraiment une performance. Alors, le premier concert était intitulé Haydn et Beethoven, du samedi. C'est-à-dire, on confrontait en principe Haydn et Beethoven, ensuite on a confronté Bach et Beethoven, et ensuite on a eu un concert du trio Zadig, un grand trio déjà bien connu chez nous et en particulier au Musicopalais. Alors, je voudrais quand même préciser que la première œuvre signée entre guillemets de Joseph Haydn n'était pas de lui, c'était le concerto pour hautbois en fait d'un certain Ignaz Malzat, mais qui a toujours été attribué à Haydn et qui était joué avec beaucoup de virtuosité, de musicalité par Serge Krzyzewski, donc dans une transcription avec un quatuor à cordes, donc très belle exécution. Et ensuite, on a eu 2 sonates de Beethoven, sonate pour violoncelle et piano, et puis pour piano et violon, puisque c'est comme ça que Beethoven les intitulait, il mettait le piano en premier. Piano et violon, la fameuse sonate à Kreutzer, avec vraiment de jeunes musiciens, certains, comme c'est la tradition pour Musique au Palais, qui sont des amateurs, des grands amateurs, on les appelle grands amateurs. Et vraiment, le mot « grand » a toute sa signification parce qu'on a entendu des choses surprenantes venant de la part de personnes qui ont un autre métier à côté, dont le métier n'est pas la musique.
Et souvent des métiers très prenants en plus.
Ah, tout à fait, tout à fait. Donc, très belle exécution des 2 sonates de Beethoven avec Eva Mieschnikowska au violoncelle et Pascal Roy au piano. Et ensuite, la sonate à Kreutzer avec Ida Derbez au violon et Vincent Boccadoro au piano. Vincent Boccadoro, qui est amusant à avoir joué, qui est d'une vitalité tout jeune. Hein,
il a 20 ans.
Il a 20 ans, c'est quand même incroyable. Hein. Ensuite, on a comparé, si l'on peut dire, Bach et Beethoven avec rien moins pour un grand amateur que les variations Goldberg jouées sans partition par Ariel Sirat. Alors là, je dis chapeau, parce que vraiment, il a joué ça sans excès de romantisme, sans partition donc, et en donnant à l'œuvre toute son unité, bravo.
Non, il y avait sa professeure de piano, on va la citer, c'est Michèle Mazon, elle est bien connue dans le milieu à Toulouse, et elle me disait après le concert, vous en connaissez beaucoup, des amateurs qui sont capables de jouer les variations Goldberg comme ça en concert. Ah, oui. Je lui ai dit non seulement j'en connais pas, mais j'en connais pas beaucoup qui s'y risqueraient tout simplement,
oui,
parce qu'il
sûr.
Faut oser d'abord.
Ah, il faut oser, oui, oui, oui. Et en plus, il a donné vraiment une impulsion particulière à cette œuvre, en donnant une unité et non pas des petits petits morceaux qui se suivent. Donc c'était très bien. Mais ce n'était pas tout. À la suite, il y a eu l'opus 110 de Beethoven, la 31e sonate, enfin une sonate monumentale, hein, par un jeune pianiste que l'on avait déjà entendu l'année dernière dans du Chopin, qui s'appelle Vincent Martinet. Et là aussi, alors les bras en tombent, hein, parce que c'est une maturité. Il a 23 ans, je crois.
Oui, oui, à peine,
mais,
je sais même pas si
mais c'est là. Stupéfiant. C'est stupéfiant la maturité de ce pianiste qui a une sonorité, d'une rondeur, d'une richesse, un sens des nuances incroyable. Non, vraiment, là aussi, bravo.
On avait déjà été frappé par son talent, sa précocité l'an passé dans du Chopin. Ah,
c'est quelqu'un qui va vraiment percer. Là.
Il est dans la classe de Denis Pascal au CNSM à Paris depuis un an, hein, à peine. Je pense qu'il est effectivement parti pour une belle carrière.
Une très grande promesse. Et puis enfin, la journée s'est terminée avec le fameux trio Zadig, alors qu'on connaît bien, et Boris Borgolotto au violon, Marc Girard Garcia au violoncelle et Yann Barber au piano, qui avait déjà fait les beaux soirs de Musique au Palais l'année dernière. Et là, ils ont joué d'abord un trio de Haydn, avec un élan vital, une jubilation incroyable. Et puis le fameux trio à l'Archiduc de Beethoven, avec une passion, un enthousiasme. Et puis en bis, ils ont donné alors le fameux Salut d'amour d'Elgar, transcrit pour leur formation.
Qui a fait frissonner toute la salle, évidemment.
Toute la salle, oui. Non, c'était vraiment magnifique. Et puis pour le dimanche, il y avait les trois concerts, c'était d'abord l'Amérique du Nord, puis l'Amérique du Sud et puis l'Espagne. Donc,
d'où le titre Voyage aux Amériques et en Espagne.
Voilà, en commençant par une spécificité, c'est la première fois que ça se produit dans ces concerts de Musique au Palais. N'oublions pas que Musique au Palais est tenu par les militaires. Hein, donc,
le Palais Niel, en tout cas.
Palais Niel,
ça
voilà.
Se passe.
Oui, Palais Niel, pardon.
C'est un lieu qui est.
Exactement. L'état-major.
Habité et tenu et géré, administré par l'armée de terre. Voilà,
exactement. Et là, on a eu dans la première partie de cet après-midi du dimanche le quatuor américain de Dvorak, mais joué par la musique des parachutistes en quintette avant, transcription évidemment, et donc par des militaires, mais en fait qui ont un certain professionnalisme.
Ouais, ce sont des musiciens professionnels, on peut
dire.
Oui,
exactement. Et donc ça avait un certain panache, très bien, ça a été excellent. Et puis ensuite il y a eu du Gershwin avec des préludes, trois préludes qui initialement sont pour piano, mais là qui étaient transcrits pour violon et piano, par Yasha Eifetz, rien moins que lui, le grand virtuose du XXe siècle. Et puis, la Rhapsody in Blue, une version pour piano solo, qui est la version originale en quelque sorte, puisque l'orchestration de Rhapsody in Blue, elle n'est pas de Gershwin, hein, ça a été fait plus tard, et donc qui était jouée là par Jean-Pierre Salmona pour la Rhapsody in Blue. Grand fidèle, Jean-Pierre Salmona.
Oui, c'est lui qui a écrit les programmes, d'ailleurs. Programme de présentation Musique au Palais, c'est lui.
Exactement, donc très bien. Et puis, il y a eu un florilège de chansons de Broadway, Welcome to Broadway.
Ouais, très agréable.
Très agréable, avec Deborah Tardy au chant et Katia Nemirovich Danchenko au piano, avec des grands tubes, I Got Rhythm de Gershwin, ou Lady Be Good, ou Summertime, etc. Et quand même avec du West Side Story, des extraits de West Side Story, etc. Donc très joyeux, très gai. Et qui enchaînait avec l'Amérique du Sud, alors là, qui était présenté par Solange Baseli, qui est vraiment une spécialiste de l'Amérique du Sud, et qui a
du
présenté...
Du tango, essentiellement du tango.
Ah, voilà. Du tango, mais pas que.
Oui,
hein.
Oui, mais c'est vraiment
donc,
sa grande passion.
Là, c'était très bien. Toute l'Amérique du Sud, il y a eu du Villa-Lobos, du Piazzolla et du Alberto Ginastera. Donc, il y avait vraiment à la fois le Brésil, l'Argentine. Donc, ça a été très, très bien, avec les mêmes musiciens que ceux que l'on avait vus la veille, la plupart du temps. On a retrouvé Jean-Pierre Salmona dans la Bacchana Brasileira numéro 4.
Villa-Lobos.
Puis le fameux Oblivion et le Libertango d'Astor Piazzolla avec Adios Nonino, avec un magnifique bandoneoniste. Oui. C'est difficile à dire, hein, qui était Marcelo Mercadante, vraiment qui a fait sensation. Hein.
Oui.
Il a d'ailleurs joué une de ses œuvres, Talvez. Magnifique. Hein,
oui, une composition personnelle, très belle.
Vraiment très bien.
Ça a beaucoup plu, là, ce passage, évidemment, avec Piazzolla, le bandoneon, et puis cette composition personnelle.
Et puis cette séquence est achevée sur les Danzas Argentinas de Ginastera, par encore un pianiste tout jeune et révélation, il s'appelle Teo Caprio Lombardi.
Oui.
Magnifique.
Il a beaucoup impressionné. Hein.
Impressionné le public et ses collègues musiciens. Donc vraiment très très bien. Et enfin l'Espagne, dernier concert de la session, avec d'abord De Goyescas, les numéro 1, numéro 4, de nouveau par Vincent Mussat, Alors, jeune.
Alors, pas de nouveau.
Pas de nouveau, non. C'était Vincent, mais c'était.
Il y a Martinet et Mussat.
Il y a deux Vincent. Donc, Vincent Mussat, qui, oui, qui n'a joué que là. Mais formidable, hein, là aussi. Encore un autre grand
pianiste. Jeune pianiste toulousain, donc jeune passé par le conservatoire, pianiste. Puis par la classe, encore une fois, de Denis Pascal.
Bah oui, oui,
au CNSM décidément. À Paris, il y a quelques années. Et qui, maintenant, est parti aussi pour une très belle carrière, je pense.
Ah oui, 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 non. Mais cette classe est une vraie pépinière.
Hein, ça, oui, et puis il faut dire que le piano toulousain, depuis quelques années, enfin, depuis quelques années, depuis une vingtaine d'années, en gros, depuis Bertrand Chamaillou.
Ah bah oui.
Il y a eu Adam Laloum, Nathanaël Gouin, Vincent Mussat, François Mosqueta, bientôt sans doute Vincent Martinet. Impressionnant. Hein.
Oui, c'est vrai.
Sans oublier
oui.
Le petit Constant Després.
Alors lui, on verra encore. Lui, il a 12 ans. Bon. Mais effectivement, il y aura sans doute Constant Després dans quelques années. Oui, oui.
Et donc, et tout cela s'est terminé par le duo Cantales avec Magali Léger et Gilbert Clamens à la guitare. Donc vraiment. Un festival de chant espagnol, très très bien, très bien fait, avec beaucoup de goût, de finesse. L'association voix de soprano-guitare, ça marche parfaitement. Hein, vraiment, c'était formidable, avec du Federico García Lorca, qui n'était pas que poète, qui était aussi compositeur, et puis du Albéniz, la fameuse Asturias jouée à la guitare solo par Gilbert Clamens, c'était magnifique aussi. Et puis les canciones españolas de Granados, du Falla,
Falla
pour
bien
terminer,
sûr.
Bien entendu, avec les fameuses canciones populares españolas, qui était vraiment un très beau moment. Et ça s'est terminé dans la gaieté, dans le sourire absolu.
Avec Oblivion à la fin, parce que c'était aussi obligé de l'avoir en guitare.
Oui, oui.
On l'avait eu avec le bandoneon, le violon et le piano.
Oui,
là, on l'a eu avec la guitare et la voix de Magali Léger.
Ah, oui, oui.
Et j'allais ajouter, et la grâce.
Et la grâce.
Et la beauté de Magali Léger, qui
aussi
ne gâchait rien dans le tableau.
Exactement.
Non, ça a été vraiment une édition formidable.
Ah oui, 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 formidable. Vraiment un grand moment.
Formidable. Alors, il y a une petite annonce à la fin d'Emmanuel Sirat, qui est la fondatrice et directrice artistique de ce festival. Elle a annoncé qu'elle passait la main. Des raisons personnelles font qu'elle repart à Paris d'où elle venait.
Oui.
Elle cherche quelqu'un pour reprendre. Donc voilà, je me permets de l'annoncer sur les ondes. Et s'il y a des gens qui sont intéressés, si ce n'est pour reprendre la direction artistique, en tout cas pour participer à l'organisation de ce festival, eh bien toutes les volontés, toutes les énergies sont les bienvenues.
Et il faut rappeler que les bénéfices de ces concerts vont à deux institutions caritatives qui permettent d'aider les militaires, les familles ou les militaires blessés ou les familles des militaires décédés. Donc c'est en plus une belle action.
Vous faites bien de le rappeler, de le préciser. Alors, nous allons écouter une des nombreuses œuvres entendues lors de cette 4e édition de Musique au Palais. L'excellent trio Zadi a joué en bis à la fin de son concert Salut d'amour d'Edward Elgar. En voici une version piano et violon interprétée par Boris Borgolotto, le violoniste du trio Zadi.
Thank you.
Salut d'amour d'Edward Elgar, interprété par Boris Borgolotto, le violoniste du trio Zadig, une formation qui nous a encore enchantés lors de cette 4e édition de Musique au Palais. Nous enchaînons avec le second concert de la saison des grands interprètes. Il a été donné le 29 novembre à la Halle au Grain par la grande pianiste portugaise Maria João Pires, en compagnie de la jeune pianiste arménienne Lilith Grigorian. Un programme essentiellement joué à quatre mains donc, et entièrement consacré à des sonates de Mozart. Ce concert était très attendu, comme à chaque fois que Maria João Pires se produit à Toulouse. Serge, encore lui, y a assisté, et je crois que cette soirée était tout à fait à la hauteur de ce qu'on pouvait en attendre. Est-ce que c'est votre avis, Serge ?
Ah, tout à fait. Maria João Pires, on a l'impression que c'est Mozart réincarné, quoi. Dans Mozart et dans Schubert, je crois que personne n'en arrive à ce pouvoir, cette sensibilité, ce naturel. Parce que ce qui fascine chez elle, c'est la simplicité, le naturel de ce qu'elle fait, c'est-à-dire rien n'est affecté, tout coule comme un ruisseau, c'est d'une finesse. Alors chaque fois, je me reviens à l'esprit, je l'ai déjà dit plusieurs fois, la fameuse phrase d'Arthur Schnabel qui disait « La musique de piano de Mozart, les sonates pour piano, sont trop faciles pour les enfants, mais beaucoup trop difficiles pour les adultes. » Parce qu'il y a toujours une profondeur qui se cache derrière la simplicité. Et ça, vraiment, Pires, elle sait le faire, quoi. C'est unique, hein. Là, elle était donc avec cette jeune pianiste arménienne, Lilith Grigorian. Et toutes les deux, ça marchait très bien. Elles avaient des styles et des touchés très différents, mais ça se combinait parfaitement bien. Alors ça a commencé par une sonate à quatre mains, puis ensuite par une sonate à deux mains seulement, Köchel 333, donc jouée cette fois par Maria João Pires. Alors c'était là aussi le paradis, quoi. On a l'impression.
Elle est très belle, cette sonate, en plus.
Ah non, elle est magnifique. Et puis elle la joue avec une finesse, un sens des nuances. Et puis cette intelligence de faire succéder à un legato, un léger staccato, ou l'inverse. Mais c'est fait avec un tel goût. Une telle finesse,
c'est
vraiment.
Le goût, oui.
Ah oui, non, mais on fond là. En tout cas, moi, je fondais. Là, vraiment. Donc c'était un grand moment aussi. Et puis il y a eu une œuvre très étrange qui s'appelait Ein Stück für ein Orgelwerk in einer Uhr. Ça veut dire donc une pièce pour orgue dans une horloge. Donc c'était une pièce en fait mécanique que Mozart avait composée pour l'intégrer dans une horloge, ces fameuses horloges mécaniques que l'on faisait à l'époque. Alors là c'est pour quatre mains, une pièce courte qui fait une dizaine de minutes, mais très bien et très belle et très solennelle même. On ne s'attendait pas à ça, c'est pas une pièce légère. Hein. Et puis on a eu alors une petite fugue, alors là très très courte, pour quatre mains, magnifique aussi. Et une autre sonate pour deux mains, jouée cette fois par Lilith Grigorian, qui était la Köchel 576. Et là on a pu vraiment entendre cette jeune pianiste seule. Et donc, on se rend compte qu'elle joue tout à fait différemment de Pires, avec laquelle elle a travaillé, mais qui ne lui a pas imposé son style. Et donc, elle a une espèce de vivacité, un toucher à la fois vif, intense. C'était aussi très beau. Et puis, tout s'était terminé de nouveau par la dernière sonate à quatre mains, la sonate en ut majeur, la Köchel 521 de Mozart. Une merveille absolue, hein. L'œuvre est fantastique, hein, puisqu'on a l'impression que les deux pianistes dialoguent, qu'il y a des questions et des réponses, et c'était magnifiquement fait, parce que chacune avec sa personnalité, et tout cela fonctionnait parfaitement. Donc on a eu vraiment un programme qui débutait par une sonate composée par Mozart alors qu'il avait 9 ans. Enfin, on n'est pas étonné pour Mozart. Hein. Il a commencé.
C'est déjà l'âge de la maturité pour Mozart.
Oui. Il a commencé à composer à 5 ans. Et puis son premier opéra, n'oublions pas qu'il avait 11 ans. Ouais. Hein. Donc, c'est quand même. C'est un peu normal, 9 ans. Et donc, ça s'est terminé par la dernière des sonates à 4 mains qu'il a composée. Une pure merveille. Voilà. Donc, un grand moment.
Et il y a eu un bis.
Il y a eu un
également
bis.
À 4 mains.
Évidemment, également à quatre mains, qui était un adagio d'une sonate en si bémol majeur, Köchel 358, toujours de Mozart. Là aussi, un beau moment, le public était transporté. Là.
Voilà. Un voyage, on pourrait presque dire une rêverie mozartienne là, durant toute cette soirée. Alors, vous avez parlé de cette fameuse sonate en si bémol majeur, K333, qu'a joué Maria João Pires. On ne peut pas faire autrement que d'écouter Maria João Pires, et justement, ça va être dans cette sonate K333. On l'écoute interpréter le premier mouvement Allegro. Thank you. Le premier mouvement Allegro de la sonate 433 de Mozart, interprété par Maria João Pires, une des pièces que la grande pianiste portugaise a jouées lors du dernier concert des grands interprètes. Le prochain a lieu la semaine prochaine, lundi 10 décembre à 20h, avec le duo formé par le baryton basse Evan Hughes et le pianiste Elio Vida, un programme piano-voix où l'on trouve du Schumann, du Sibelius, du Hagland, du Purcell et du Finzi. On va maintenant passer au dernier concert sur lequel nous allons revenir, le deuxième de la saison des Clés de Saint-Pierre, donné lundi à Saint-Pierre-des-Cuisines par le quatuor Trombicelli, auquel s'était joint le percussionniste Sébastien Gisbert. C'était une première à tout point de vue pour cette formation et pour le programme Demain dès l'aube qu'elle a interprété, une vraie création et un privilège pour tous ceux qui ont eu la chance de la découvrir lundi, parmi les chanceux, Serge Chosy et moi-même. Et oui, toujours ça, vous êtes toujours dans les bons coups, j'ai remarqué.
C'est pas le seul.
Alors, il y a une expression qui est maintenant un petit peu éculée. On parle de, vous avez, d'ovni musical.
Oui.
Ah ben, eh bien là, je pense qu'elle prend vraiment tout son sens.
Ah oui.
Et vous serez d'accord avec moi, Serge,
parce ah
qu'on a assisté à quelque chose qui est quasi indescriptible, mais on va essayer quand même.
Oui, c'est l'imagination qui est au pouvoir, là, hein, l'imagination musicale, puisqu'on a entendu la première manifestation, probablement, d'un quatuor qui s'appelle quatuor Trombicelli.
Oui,
c'est-à-dire constitué de deux trombones et deux violoncelles. A priori, on se dit non, mais c'est la carpe et le lapin, là, c'est quoi?
Je vous avoue, j'étais pas le seul que je redoutais un peu de voir ce que ça allait donner.
Oui, hein, oui, bah tous. Hein,
oui, donc, d'entendre ce que ça allait donner.
Effectivement. Et puis ça marche, mais ça marche parfaitement. D'abord, il se trouve que ces deux types d'instruments, trombone et violoncelle, ont à peu près la même tessiture.
Et oui.
Donc ça marche très bien. Et puis, ils ont choisi à la fois des œuvres, la plupart étaient transcrites, évidemment, hein, des œuvres pour Trombicelli, je crois pas qu'il en existe.
Bah, elles étaient toutes, parce qu'il n'y a pas de. À ce jour, en tout cas, peut-être que ça va donner des idées du coup, mais il n'y a pas d'œuvre écrite originellement pour deux trombones et deux violoncelles.
Ah non, ça absolument pas. Alors il faut quand même les nommer. Hein. Les deux violoncellistes, évidemment violoncellistes de l'Orchestre National du Capitole, étaient Élise Robineau et Marie Girbal, qui a réalisé la majeure partie des transcriptions.
Oui,
d'ailleurs.
Et c'était pas rien.
C'est pas rien du tout. Et puis les deux trombones étaient Émeric Fournès et Fabien Dornic, qui joue d'ailleurs alternativement du trombone et de la sacoboute, puisqu'il jouait certaines pièces anciennes. Et puis il y avait comme une espèce de fil rouge dans ce concert, dans ce programme, qui était joué sans interruption, hein, sans entracte. Il y avait des lectures de poèmes, des poèmes qui avaient été choisis par Jean-Jacques Grolot et qui étaient lus par Nathalie Palmyre, donc, et tout cela, ça s'intercalait tout à fait naturellement entre les pièces, les différentes pièces. Tout ça a débuté avec des transcriptions de mélodies de Debussy, mais oui, les trois chansons médiévales, qui ont été arrangées donc par Marie Girbal, une fois de plus, et vraiment, ça marchait très bien. Hein. Ensuite, après le Debussy, il y a eu une œuvre de Beethoven que j'ignorais complètement, que je ne connaissais pas, Trois Écoiles, composée pour quatre trombones. C'est une œuvre très funèbre, d'ailleurs, qui a été reprise sous forme de chœur pour les obsèques de Beethoven. C'est ce que j'ai appris à cette occasion. Donc, du Beethoven joué par quatre trombones, je ne savais pas que ça existait. Donc, et là, c'était pas, évidemment, de trombones et de violoncelle. Très beau, très émouvant comme œuvre, une œuvre dramatique, mais intense, très forte. Vraiment très bien. Et puis, pour l'œuvre qui suivait, qui était de Diego Ortiz, un Espagnol de la Renaissance, là, les deux trombonistes ont repris leur sacoboute. Et est arrivé sur scène le percussionniste, hein, dont vous avez parlé tout à l'heure, Sébastien Gisbert, et qui s'est mêlé de manière tout à fait naturelle à l'ensemble des quatre musiciens pour ces deux Richard Carr et deux Diego Ortiz, tout à fait intéressant, tout à fait beau. Et puis alors, là, vraiment, ils ont fait fort dans les contrastes. Hein. À la suite de cette œuvre de la Renaissance, une œuvre de Philippe Hersant, compositeur d'aujourd'hui, évidemment, qui s'appelle 5 duos, et c'est pour deux violoncelles.
Et ça a été joué à deux violoncelles.
Et ça a été joué à deux violoncelles, les deux trombonistes se sont pudiquement retirés, donc. Mais alors, l'enchaînement avec ce qui a suivi, ça a été, je crois, la sensation.
Un des grands moments, oui.
Un des grands moments de ce concert.
C'était le grand moment du concert.
Et donc, Sébastien Gisbert est arrivé avec juste deux maracas, et il a fait un solo de maracas sur le devant de la scène, qui s'appelle, ce solo qui existe, hein, qui s'appelle, il n'a pas improvisé, il s'appelle Temazcal, et c'est d'un compositeur mexicain qui s'appelle Javier Alvarez, que je ne connaissais pas.
Encore une découverte.
Alors,
oui.
C'est une pièce pour maracas et bande magnétique. Et ce qui est incroyable, c'est que sans partition, Sébastien Gisbert a joué ça avec un synchronisme stupéfiant, à la fraction de seconde près, avec la bande qui passait.
Bon, je pense que c'était pas son coup d'essai. Hein. Il a,
Il a dû profondément travailler.
C'est quand même maîtrisé.
Complètement.
C'était remarquable, vraiment.
En plus, il jouait de sa personne. On avait l'impression d'un zombie qui arrivait sur scène.
Il y a un mort vivant qui sortait du tombeau. Le regard fixe. Alors, je précise qu'il fait aussi un peu de théâtre avec Sébastien Bournac au Théâtre Sarnaud. Je l'ai vu sur scène. Donc, il est un petit peu rodé, effectivement, à l'expression scénique. En plus, il a un physique qui s'y prête bien, je trouve. Il avait cette espèce de regard fixe. Enfin, c'était étonnant. On aurait entendu une mouche voler pendant qu'il jouait. Les gens étaient fascinés par ce qu'ils voyaient. Là. Vraiment,
c'est
fabuleux.
C'est une des rares pièces où là le silence a été rompu parce que le public n'en pouvait plus. Il a été acclamé là, pour cette performance.
C'était mérité.
C'était très mérité. Et puis, bon, il y a eu d'autres pièces. Une autre pièce de la Renaissance, d'un Ludovico Viadane, qui s'appelle Canzone Francese, et qui est une pièce en écho. Alors là, les trombones étaient dans la coulisse. Alors, évidemment, ça amène le jeu de mots. Trombone à coulisse ou trombone en coulisse,
Les deux.
Donc, ils ont joué depuis la coulisse en écho avec les deux violoncelles qui étaient sur scène. Donc, très, très beau aussi. Et puis, alors, ça, on ne s'attendait pas à ça, du Wagner. Mais oui, du Wagner, avec une espèce de medley de Lohengrin. Alors, c'est un arrangement qui existe, celui-là, et qui n'est pas de Marie Girbal, qui est d'un certain Friedrich Grützmarscher. Bon, inconnu,
enchanté de le connaître,
moi, très heureux, mais très bien fait, très bien fait, et qui s'achève d'ailleurs par la fameuse marche nuptiale jouée au trombone, donc ça a été un grand moment. Avant, encore un nouveau contraste, une pièce qui s'appelle Full Half Moon, d'un certain Bojan Zed, qui est c'est un pianiste franco-serbe, voilà. Ce qu'il y a sur sa bio, et son nom en fait c'est Bojan Zulfikapacic.
Bojan Zed, c'est
plus facile. Vraiment une pièce étonnante, tout à fait orientalisante dans les harmonies. Bon, une grande curiosité, très belle. Et qui enchaînait nouveau contrat, retour encore vers le passé avec deux pièces anonymes jouées à la sacboot et au violoncelle évidemment, qui étaient deux pièces anonymes, l'une padoine Adel Rey et l'autre Scottish Dance. Alors c'est joué ça assez souvent, les sacboutiches c'est long à leur répertoire, mais formidable la fin de ce concert, puisqu'ils ont un peu imité ce que Joseph Haydn avait fait avec la symphonie des adieux, c'est-à-dire ils quittent la scène l'un après l'autre, et il ne reste plus sur scène, dans l'ombre, qu'une violoncelliste qui donne les dernières notes. C'était vraiment très beau.
Très bien scénarisé en plus. La mise en espace était très intéressante.
Très belle, très belle. Vraiment un moment tout à fait hors norme.
Et un peu hors du temps. C'est vrai qu'on est sorti, on se demandait ce qu'on avait vu.
Non mais il faut quand même reconnaître que grâce aux clés de Saint-Pierre, on a des combinaisons instrumentales qu'on ne voit pas ailleurs.
C'est la réflexion que je me suis faite à la fin. Je me suis dit, où est-ce qu'on pourrait voir ça ailleurs qu'ici?
Mais non. Il y a un réservoir.
Il y avait une prise de risque quand même de monter déjà sur le papier. Bien quand sûr. On voit deux violoncelles, deux trombones, on dit bon, quoi ça va ressembler cette histoire.
Et là, c'est bien. Bon, donc, comme je disais, il y a un réservoir d'instrumentistes de tous les pupitres avec l'orchestre du Capitole. On peut combiner à peu près ce que l'on veut, quoi.
Et puis, ils sont tous d'un tel niveau, il est vrai que ce qu'il faut de très bons musiciens pour faire ça.
Impressionnant.
Voilà donc pour ce formidable programme Demain des Lots, proposé et interprété par le Quatuor Trombicelli. Je vais citer de nouveau les quatre musiciens qui le composent, les violoncellistes Élise Robineau et Marie Girbal. Et donc, ils étaient accompagnés des trombonistes Émeric Fournès et Fabien Dornic, sans oublier le renfort précieux du percussionniste Sébastien Gisbert. J'espère que nous aurons l'occasion de revoir ce programme dans les années qui viennent, il le mérite amplement. Le prochain concert des Clés de Saint-Pierre est prévu lundi 21 janvier à 20h à Saint-Pierre-des-Cuisines, avec un nocturne de hautbois, clarinette, cors et bassons, et des œuvres de Beethoven, Mozart et Mickiewicz, encore une formation et des œuvres qu'on entend très rarement. Nous faisons une petite pause d'une minute avant de nous retrouver pour la seconde partie de l'émission, avec notre invité d'honneur Alfonso Cagliani, chef du chœur du Capitole. Restez bien à l'écoute de Radio Présence. A tout de suite.
Vous recherchez un clavier numérique ou un piano acoustique? Amadeus Piano propose les plus grandes marques au meilleur prix. Amadeus Piano est aussi la clé de vos concerts et de vos événements. Du piano droit haut de gamme au piano à queue de concert, nous mettons tout en œuvre pour vous fournir une prestation de haute qualité. Avec Amadeus Piano, la référence du service et du transport de piano à Toulouse et dans la région, bénéficiez du savoir-faire de Robert Burali, facteur de piano diplômé et accordeur du Conservatoire et de l'Orchestre de Chambre de Toulouse. Retrouvez tous nos produits et services sur amadeuspiano.fr. Amadeus Piano vous souhaite de passer un agréable moment avec Mélomanie.
Seconde partie de Mélomanie avec les invités de ce numéro, Serge Chauzy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour le site Culture 31 et le journal La Voix du Midi, Robert Pénavert, l'autre cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour les sites Culture 31 et Actu Toulouse, ainsi que pour les journaux Côté Toulouse et La Voix du Midi, et avec notre invité d'honneur, Alfonso Cayani, chef du chœur du Capitole.
Mélomanie, l'agenda.
Nous accueillons donc Alfonso Cayani aujourd'hui et je me fais le porte-parole de mes camarades pour dire que nous en sommes très honorés parce qu'il y a longtemps que nous souhaitions nous entretenir avec vous dans cette émission. Nous vantons souvent à Mélomanie la grande qualité des prestations du chœur du Capitole lors des opéras auxquels nous assistons et encore tout récemment d'ailleurs avec le magnifique La Ville Morte dont les représentations viennent de se terminer au Théâtre du Capitole. Alfonso Cayani, je rappelle que vous dirigez le chœur du Capitole depuis 2009-2010, si on veut être précis. Auparavant, vous avez fait beaucoup d'autres choses, notamment à Milan, où vous avez été élève au conservatoire Giuseppe Verdi. En France, vous avez été aussi à de nombreuses reprises chef de chœur invité pour diriger le chœur de Radio France. Mais il y a une chose que l'on ignore peut-être, c'est que vous êtes également compositeur. Alors, est-ce que c'est une activité régulière, une activité que vous pratiquez encore ou c'est derrière vous ?
La seule définition, je peux dire, c'est une autre vie, c'est un autre moi, et donc on n'en parle presque pas. J'ai fait des études de composition, j'ai composé un peu pendant ma jeunesse, j'ai eu quelques reconnaissances, genre un prix avec Ennio Morricone pour une composition de musique de film, rien de très important, disons, mais intéressant.
Excusez-moi, vous venez de parler d'Ennio Morricone, vous avez travaillé avec Ennio Morricone, vous pouvez nous dire quelques mots sur ce travail parce que ça va intéresser les auditeurs.
Faut pas exagérer, j'ai pas travaillé avec Ennio Morricone, il faut être précis. J'étais assez jeune, disons, et il y avait un cours très intéressant de musique pour film à l'Académie Reggiana de Siena, qui est normalement reconnue comme une académie de musique classique, où ils font tous les instruments, la composition classique aussi, et à côté il y avait un cours justement de musique de film qui était tenu justement par Ennio Morricone et son co-rédacteur, disons, Sergio Micheli. Et là, on nous avait demandé pendant le cours d'écrire un BO,
une bande originale.
Une bande originale pour une séquence d'un film de Gianni Amelio, réalisateur italien très, très engagé, disons, et très intéressant. Et là, j'avais fait mon petit truc, et apparemment, ça avait beaucoup plu à Maestro Morricone, qui m'avait reconnu, félicité, et puis j'ai gagné ce prix. Mais la carrière, entre guillemets, de compositeur de musique de film, ça s'est terminé plus ou moins comme ça, à part une petite collaboration encore avec Franco Piassanti, qui est aussi un très important compositeur de musique de film italien. Pour ceux qui suivent un peu la télé, il est l'auteur de la BO de Montalbano,
Montalbano. Oui, tout le monde connaît en France.
Ouais, il a fait beaucoup plus de films, toujours très engagé lui aussi, Gianni Amelio aussi, Nanni Moretti, il a fait la plupart des premiers films de Nanni Moretti, puis il a recommencé à travailler avec lui. Je pense vraiment avec Mia Madre, l'un des derniers films, ils ont repris la collaboration ensemble. Donc, je travaillais un peu avec lui, mais puis je me suis aperçu qu'évidemment, c'était pas ma carrière. Non, c'est surtout que la profession de chef de chœur a primé sur l'autre.
Disons. Alors justement, pourquoi vous êtes dirigé vers la direction de chœur plutôt que vers la direction d'orchestre ?
Alors, d'un côté, c'est les cas de la vie. D'un côté, c'est que j'ai commencé à chanter comme un enfant chanteur et la voix m'a toujours intéressé. La voix en tant que voix chantée m'a toujours intéressé. Et aussi, j'adore la musique symphonique, j'adore la musique de chambre, mais la musique que j'aime le plus, symphonique, chorale symphonique ou d'opéra, c'est la musique où il y a la voix. Et donc, c'est une passion. Et puis, c'est aussi les coïncidences de la vie, ce qui se passe au conservatoire. J'ai suivi un cours de spécialisation en direction de chœur avec Bruno Casoni, qui est le chef de chœur de la Scala actuelle, qui probablement a reconnu de qualité à moi. Il avait besoin d'un assistant. Il m'a demandé si j'étais libre pour l'assister pour la maîtrise de la Scala. Et comme ça s'est enchaîné. Et ça a devenu une profession que j'adore en plus. Ce que je peux dire, ce n'est pas un choix par dépit. Au contraire, c'est un choix plein parce que c'est la musique que j'aime le plus, c'est la musique chorale.
Et puis la voix, il me semble que c'est l'instrument le plus fragile. On n'est jamais sûr que d'une séance à l'autre, on va avoir exactement la même chose.
Et ça c'est sûr, c'est aussi complexe et il a une palette très large. Et c'est aussi le défi d'un chef de chœur de homogénéiser les différentes voix, mais de garder aussi une personnalité qui reste assez forte et assez présente au sein du chœur.
Alors on en vient au chœur du Capitole, 45 choristes aujourd'hui. Comment vous travaillez avec eux ? Quelle est la patte, le style d'Alfonso Cayani en tant que chef de chœur ?
Je pense pas avoir un style en tant que chef de chœur. On cherche de servir la musique dans sa profondeur, disons. Le travail du chœur du Capitole est un travail quotidien. Il se fait tous les jours, donc c'est un travail profond qu'on fait où on essaie de trouver les paramètres qui depuis toujours m'intéressent le plus. L'homogénéité, la couleur qui change selon l'ouvrage qu'on affronte et la justesse. Mais sincèrement, de mon point de vue, la couleur et la justesse procèdent parallèlement. Quand on trouve l'une, on trouve l'autre. Quand on cherche l'une, on arrive à trouver l'autre. Donc, justesse et couleur, pour moi, sont une partie totale du travail du chef de chœur. Et puis, le sens du rythme, la précision du vertical, jamais séparé de la longueur de la phrase. Donc, vertical et horizontal qui coopèrent pour le même but.
Alors, je vais passer la parole à Robert Pénavert, qui n'a pas encore pu s'exprimer dans cette émission. C'est vous dire comme il doit souffrir. Et je sais qu'il a mille et une choses à dire et beaucoup de questions à vous poser. Vous me disiez tout à l'heure, Robert, que Alfonso était un spécialiste des...
Des voix blanches, ce qu'on appelle les voix blanches. Hein. Et d'ailleurs, vous venez de l'évoquer à la Scala de Milan. Votre première approche chorale a été concernant les voix blanches. Et donc, vous êtes devenu un peu, malgré vous, un spécialiste. Et donc, lorsque vous êtes arrivé à Toulouse, la maîtrise existait déjà, mais n'existait pas au niveau auquel vous l'avez apporté depuis que vous êtes arrivé. Alors, racontez-nous un peu comment vous travaillez dans les voix blanches. C'est la maîtrise, ce sont les enfants à partir de 8 ans, je crois.
Oui. Oui, exactement. Bon, c'est déjà très gentil, Robert. Je vous remercie beaucoup pour le compliment que vous me faites. La maîtrise, moi, je suis arrivé à Toulouse, comme on a évoqué, saison 2009-2010. Et ça a été un désir, parce que j'avais quitté Milan. Et la même année, j'ai travaillé encore à la maîtrise de la Scala. Donc, je faisais des allers-retours. Je m'appelle qu'on avait ouvert la saison avec Carmen, dirigée par Daniel Barenboim. Et là, j'étais encore chef de la maîtrise de la Scala. Donc, j'avais préparé les enfants pour ce Carmen. Et ça m'a toujours manqué, mon travail avec les enfants, avec la voix des enfants. Et donc, après quelques années, on a pensé avec le directeur du théâtre de l'époque de fonder une maîtrise régulière pour le théâtre du Capitole. Autrefois, il y avait une maîtrise qui marchait très bien, mais qui se rassemblait à l'occasion des ouvrages. Donc, disons un mois et demi avant, je ne sais pas combien, on se préparait. Mon désir était de monter une vraie maîtrise. Donc, ils travaillent régulièrement, et notre maîtrise travaille régulièrement, tous les semaines, 2 jours par semaine, 1h30 chaque jour, où on affronte la respiration, la technique vocale, l'articulation de voyelles, de consonnes, la position de la bouche pour le son. On essaie de faire notre mieux pour avoir, même avec la maîtrise, un son qui soit fort, présent, homogène, jamais forcé, et que ça soit un son possible et intéressant pour un cœur d'enfant. Mais c'est une passion, encore avant d'être un travail, travailler avec la voix d'enfant, on a l'impression de pouvoir forger la matière avec laquelle on travaille. Et donc, pour moi, c'est un plaisir. Puis, il y a même un rapport d'échange, de jeu, de complicité avec le groupe de la maîtrise qui est très fort. Donc, on s'amuse beaucoup.
C'est de quel âge? À quel âge? 8 ans jusqu'à?
C'est de 8 ans jusqu'au possible.
Possible, oui.
Et malheureusement, heureusement, on n'est pas obligé. Mais ce qui est frustrant du travail de la maîtrise, c'est que quand on arrive vraiment au bout d'un travail, on doit saluer les choristes. Parce que déjà, les garçons changent la voix, il y a la mue, ils changent, ils passent un baryton et basse et ténor. Et les filles, même si on le garde autant que possible, parce que le changement n'est pas aussi évident, la voix mûrit, elle tourne, et donc elle devient une voix plutôt vibrante. Soit elle disparaît, parfois ça arrive, soit elle devient une voix adulte. Donc disons que les filles, on essaie de les garder le plus possible, même au-delà des 16-17 ans. Les garçons, au bout de 14, et de plus en plus, ils sont de plus en plus précoces, donc il faut les saluer de plus en plus tôt.
Donc c'est la mue qui...
C'est la mue qui fait changer la voix, ça, donc c'est plus possible.
Ouais.
C'est aussi bien qu'ils s'arrêtent pendant quelques années. Puis il y a des théories différentes sur ça. Schmidt-Gaden, exemple, qui est le chef de chœur de Tölzer-Knaben, oui. Peut-être la maîtrise la plus importante du monde, il fait chanter aussi les adolescents pendant la mue.
Ah oui.
Et il a aussi un chœur mixte qui est fait par les voix aiguës sont faites par la maîtrise, par les enfants, et il y a les anciens maîtrisiens qui font ténor et basse. Mais il y a des opinions différentes. Nous, on ne fait pas ça parce qu'on s'occupe de la maîtrise, et puis le chœur adulte est le chœur du Capitole. Donc il n'y a pas un passage direct entre les deux.
Alors, le chœur du Capitole, en définitive, existe depuis très longtemps.
Et, je pense depuis la fondation.
Depuis la fondation, non, il doit avoir 3 siècles à peu près d'existence.
Je crois qu'il date du milieu du XVIIIe siècle.
D'existence extraordinaire. Donc, c'est un ensemble qui a un énorme répertoire, et qui est passé entre les mains de différents chefs de chœur. Avant vous, il y avait Pierre-Marie Aubert, qui avait laissé un très bon souvenir également, et qui a amené le chœur à un excellent niveau, reconnu, d'ailleurs, qui a fait des enregistrements, bien évidemment. Alors vous, de ce que j'entends personnellement, vous avez apporté autre chose, et moi je l'écris souvent dans mes papiers, c'est une couleur spécifique pour les œuvres. Et ça, j'ai l'impression que vous êtes très attaché à la couleur. Ensuite, évidemment, il y a la discipline, il y a la rondeur, il y a la musicalité, mais cette couleur, comment vous travaillez là-dessus ?
On cherche d'être le plus possible fidèle à la musique. Donc on ne peut pas chanter Mozart comme on chante Wagner. C'est ça aussi la professionnalité profonde des choristes du Chœur du Capitole, qui leur permet de passer d'un style à l'autre et de rester fidèles à la musique. On ne peut pas chanter Mozart avec un grand vibrato ou des grosses voix ou avec une couleur trop sombre qui se rapproche à l'opéra italien. J'ai travaillé beaucoup pour ma culture, pour ma formation, sur une couleur plus sombre, plus arrondie, plus couverte. Mais on ne peut pas chanter tout de la même façon. On a fait même du baroque, si vous vous souvenez, les Indes Galantes, oui. avec Rousset.
Talent lyrique de Christophe Rousset.
Christophe Rousset, et c'était un plaisir énorme, et Christophe était vraiment content du travail fait sous la légèreté, sous la précision rythmique et sous la presque absence de vibrato. Donc on cherche de se rapprocher le plus possible au style de l'ouvrage, et c'est quelque chose qui me passionne depuis toujours.
Ah oui, oui, je peux témoigner de l'adaptation du style lorsque le chœur a participé à une exécution des Vêpres de la Vierge de Monteverdi. On ne chante pas Monteverdi comme on chante Verdi. Hein. Et là, c'était impressionnant parce qu'on avait l'impression d'entendre un chœur baroque. Évidemment, sans vibrato, avec cette finesse expressive, vraiment, ça avait été très apprécié. Ça a été une des grandes exécutions des Vêpres de la Vierge à Toulouse. Hein.
Le chœur du Capitole, un chœur tout terrain, si je puis dire. Et il est temps qu'on l'écoute maintenant, ce chœur du Capitole. Voici un extrait du Prince Igor de Borodine, les danses polovstiennes, une version chantée lors de la cérémonie des Victoires de la Musique 2016. Les danses polovstiennes, un extrait du Prince Igor de Borodine interprété par le Chœur du Capitole dans les conditions un peu particulières de la cérémonie des Victoires de la Musique Classique 2016 à la Hallograin de Toulouse. Ça nous amène au concert de Noël que vous allez donner au Théâtre du Capitole le samedi 8 décembre à 20h et le dimanche 9 à 17h. Alors, qu'est-ce que vous allez nous chanter cette année? Quelles œuvres avez-vous mises au programme?
Alors, cette année, la formule, disons, est la formule classique de notre concert de Noël. Une première partie plus cultivée, disons, qui fait connaître des ouvrages importants de l'histoire de la musique, et une deuxième partie qui est totalement dédiée au chant de Noël, à la fête de Noël, aux Christmas carols, comme on dit en anglais, pour fêter le Noël avec le public du Chœur du Capitole. Et l'idée de Christophe Gristy cette année, c'était justement de célébrer le 200 ans de la naissance de Charles Bounon, un grand compositeur
absolument
français,
oui,
dont on connaît principalement les deux grands ouvrages qui sont Roméo et Juliette et un peu plus Faust, mais dont on ne connaît pas beaucoup de morceaux qu'il a écrit, énormément intéressants et de la très belle musique. Et même pour le concert de Noël, on a choisi des ouvrages moins connus. On ouvre avec Roméo et Juliette,
la valse du bal des Capulets.
Mais puis on enchaîne sur les tributs des Amoras, qui est sûrement moins connu, Polyeucte. Et donc, on a pensé vraiment de faire aussi des opéras qui ne sont pas connus par le grand public, disons. Et pour clôturer la partie opéra, un extrait de Mireille aussi. Pour enchaîner avec de la musique sacrée, parce que Gounod a écrit énormément de musique sacrée, avec un très bel Ave Verum pour quatre voix, très simple, mais très poétique, très mélodique. Et pour clôturer avec le monumental final de Mors et Vita, le grand oratorio en trois parties de Charles Gounod.
Vous connaissez les œuvres méconnues ou inconnues de Gounod, Robert, je vous voyais hocher la tête. Qui programme ça aujourd'hui?
Effectivement, personne.
Voilà.
Et c'est dommage parce que Polyeucte est vraiment un opéra magnifique, un opéra héroïque presque, pour nous dire, et nous avons la distribution en France pour chanter Polyeucte, parce que évidemment Polyeucte se doit d'être chanté dans une prosodie française absolument impeccable, et nous avons la distribution, et j'espère qu'un jour Christophe Gristy, que vous évoquez, cher Alfonso, aura la bonne idée de, et le tribut de Zamora est également, bon, c'est un autre opéra bien évidemment, mais voilà. Alors Mors et Vita, pour la petite histoire, c'est pas une œuvre inconnue à Toulouse, puisque donc en 1992, l'Orchestre du Capitole l'a enregistré sous la direction de Michel Plasson.
Et la deuxième partie, là, du concert, ce sont vraiment les chants de Noël, mais les chants de Noël du monde entier.
Les chants de Noël du monde entier, qui font beaucoup de références au monde anglo-saxon, parce qu'il y a une vraie tradition de concerts de Noël, tout le monde le connaît, même, on est même influencé un peu par le film, donc il y a beaucoup de morceaux qui viennent de ce monde-là, mais on ne néglige pas aussi, justement, la France, comme on est en France, avec la Marche des Rois, avec les Anges dans nos campagnes, des morceaux qui sont vraiment des tubes pour le public, pour fêter le Noël, pour créer une tradition, pour créer un rendez-vous, où on a envie d'écouter toujours les mêmes choses, comme on a parfois quand on est gamin, on a envie d'écouter toujours les mêmes histoires, même si on les connaît par cœur, on a encore envie de les écouter, donc c'est ça qu'on fait pendant la deuxième partie du concert de Noël. Mais l'idée d'avoir un trait d'union avec la première partie, il y aura un Noël de Charles Gounod. Un grand morceau de Noël pour trois voix féminines, très beau, très émouvant, très mélodique, qui est chanté par le chœur féminin du chœur du Capitole, accompagné par le piano, qui est de Charles Gounod. Donc on a, même dans la partie Noël, disons, on a un grand morceau de Charles Gounod, toujours pour rendre hommage au grand compositeur.
J'aurais tenté de dire que c'est un rendez-vous familial que vous nous donnez.
Oui,
et d'ailleurs, ce qu'il y a de formidable, c'est qu'il y a de plus en plus de familles entières qui viennent avec les enfants, parfois jeunes, 5 ans, 6 ans, et au-delà bien évidemment, parce que ces enfants, quand ils entendent Mon beau sapin, même si c'est chanté en allemand, peu importe, ils reconnaissent évidemment.
Mais on le chante en français aussi.
Ah oui, ouais, oui, parce que...
On fait couplet en allemand,
voilà,
couplet en français, comme ça.
Alors, ce qu'il faut dire, c'est que ce concert a été donné à titre unique, jusqu'à il y a 3 ans, et puis le succès était tel, et le public se pressait tellement nombreux, et ne pouvait pas rentrer qu'en définitive. Donc, vous avez décidé de le doubler.
Oui. Depuis l'année passée, on le double. Je dois admettre, les deux soirs sont toujours sold out.
C'est complet. Et alors, quand on disait que c'est un rendez-vous familial, c'est que vous dites que vous fêtez Noël avec le public. Mais c'est vrai parce que vous faites chanter le public.
Normalement, on a même instauré cette tradition dans les bis. On ne va pas trop révéler la surprise pour ceux qui viennent pour la première fois, mais on fait participer le public au concert du Capitole. À propos de ça, justement pour le rendez-vous familial et aussi pour la connaissance, par ceux qui ne sont pas un public habituel de l'opéra, c'est intéressant parce que depuis cette année, le chœur va rayonner beaucoup dans la région. Et dans le même concert, on va le donner à Cornebarieux et aussi à Mondonville, parce que l'idée, c'est de faire connaître la musique, le chœur du Capitole et le théâtre du Capitole aussi dans la région et aussi au public qui n'est pas forcément dans les conditions de venir à Toulouse, de venir au théâtre, donc faire connaître, rayonner dans la région par le biais du chœur du Capitole, je trouve que c'est très important, très intéressant.
Et le mérite ce chœur du Capitole. Alors parmi les nombreuses pièces au programme de ce concert de Noël, il y a Farandole et chœur de Mireille, l'opéra de Charles Gounod, vous en avez parlé. Je vous propose d'en écouter une version du chœur et de l'Orchestre National du Capitole, mais assez ancienne pour pas dire très ancienne, à l'époque de Michel Plasson. la pièce Farandole et chœur de Mireille L'Opéra de Charles Gounod, une version du chœur et de l'Orchestre National du Capitole, époque Michel Plasson. Et puisqu'on parle de l'Orchestre National du Capitole, est-ce que vous êtes heureux, Alfonso Cayani, de reprendre la collaboration avec l'ensemble symphonique toulousain pour des concerts à la Halograin, parce qu'il va y en avoir plusieurs en 2019, il y en a deux en février, il y en a un en mars, ça doit être une grande joie pour vous, je suppose.
Ben, c'est une question presque rhétorique, je veux dire, si on est heureux de reprendre une grosse collaboration avec l'Orchestre National du Capitole, ben, évidemment oui, le chœur ne peut qu'être ravi, et moi, en tant que chef de chœur, affronter des ouvrages comme Schicksalslied des Nains de Brahms, Damnation de Faust avec Tugan Sokiev, Daphnis et Chloé, La Damoiselle Lue avec Kazuki Yamada, puis encore avec Tugan Sokiev, une cantate du printemps de Rachmaninov et les danses polovésiennes justement que vous avez évoquées. Qu'est-ce qu'on peut vouloir de plus pour un chœur lyrique et symphonique comme nous?
En tout cas, il y a longtemps qu'on attendait de revoir le chœur du Capitole avec l'orchestre.
Le public sera ravi, alors vraiment.
On espère, nous, on est ravis d'une collaboration aussi importante, d'une saison aussi intéressante d'un point de vue musical, technique pour le chœur, parce qu'il y a des morceaux...
C'est des morceaux, des œuvres magnifiques.
Des œuvres magnifiques, des chefs-d'œuvre qui devront une présence technique et un caractère énorme.
Oui, dans la Damnation de Faust en particulier, le chœur est le personnage principal.
Ah, c'est impressionnant. L'écriture est hyper complexe, comme tout Berlioz. Pour moi, il n'y a rien de facile dans Berlioz. Tout est hyper conceptuel, concentré, puis le résultat est magnifique. Mais vraiment, ça demande énormément de travail.
Voilà, alors ce sera, il y a le 8 février, le 22 février, le 8 mars pour ces concerts avec l'Orchestre National du Capitole. Regardez dans la programmation de l'orchestre. Il est temps de conclure cette émission et de tous vous remercier d'y avoir participé. Merci Serge Chosy et Robert Pénavert, fidèles et toujours brillants chroniqueurs de la vie musicale toulousaine. Un grand merci à vous Alfonso Cayani d'avoir été notre invité aujourd'hui. Ça a vraiment été un plaisir pour nous de vous recevoir à Mélomanie. Je rappelle que vous allez diriger le chœur du Capitole pour les concerts de Noël. C'est samedi 8 décembre à 20h et dimanche 9 à 17h au Théâtre du Capitole. Informations, détails du programme et réservations sur www.theatreducapitole.com. Je signale aussi ce samedi 8 décembre à 20h, salle du Sénéchal à Toulouse, le deuxième concert de la saison de Toulouse Guitare. Il est donné par le duo guitare-bandoneon de Gianpaolo Bandini et Cesare Chiacchiaretta avec un programme tango et folia. Vous pouvez vous renseigner et réserver sur le site www.toulouseguitare.fr. Ce même samedi 8 décembre, concert de l'Orchestre National du Capitole sous la direction de Klaus Mäkelä à 20h à la Halograin. Il y aura aussi la violoniste Akiko Suwanai et un programme Lopez, Korngold, Stravinsky. Réservation sur le site de l'orchestre www.onct.toulouse.fr. A noter également ce dimanche 9 décembre à l'espace Garonne de Gagnac-sur-Garonne à 16h, concert de l'orchestre En Harmonie sous la direction de notre ami Serge Krichewski. Il y a au programme la symphonie numéro 88 de Haydn et une symphonie concertante de Mozart. C'est un concert donné au profit du Téléthon. Renseignements sur www.orchestre.enharmonie.free.fr. Je l'ai annoncé au cours de cette émission, il y a un concert des grands interprètes ce lundi 10 décembre à 20h avec le duo du baryton Evan Hughes et du pianiste Elio Vida. Programme et réservation sur le site www.grandsinterprètes.com. Et enfin, notez que le prochain concert des Arts Renaissants a lieu mercredi 12 décembre à 20h30 à l'église Saint-Jérôme. C'est l'ensemble La Chapelle Rhénane qui s'y produit avec un très beau programme de cantates de Jean-Sébastien Bach. Informations et réservations sur le site www.art-renaissant.fr. Merci à Christophe Aubry d'avoir assuré la régie technique de cette émission qui est disponible et réécoutable en podcast dès aujourd'hui sur le site de Radio Présence. Je rappelle que Mélomanie est diffusée les vendredis à 19h ainsi que les samedis à 10h. Merci encore d'être fidèle à notre écoute. Je vous souhaite à tous une excellente semaine musicale.